Ah, je me fais tout le temps avoir. Ah, c'est bien.
Bonsoir. Elle est peut-être fanée ou quoi ? Oui, on va la coucher.
Alors c'est le dernier dernier chilling de l'année enfin de l'année comment on dit
scolaire.
Parce qu'après je vous avais dit en juin je viendrai pas, on a eu un petit souci au niveau des dates, donc du coup ce que je propose, ce que j'ai proposé de faire, c'est de faire un zoom, enfin deux séances de zoom en juin, et puis ça sera le thème, ça sera 40 questions sur le dharma, un petit quiz. Bon, bien sûr, ce ne sera pas une interro. C'est, je lancerai les questions et puis ceux qui ont envie de répondre pour voilà, un peu voir comment ils ont compris la chose, ils répondent et puis sinon, bah, moi, je répondrai. Quoi. Et donc, les questions, la Matsutri m'avait fait ça une année et ça avait beaucoup plu. Parce que du coup, ça permet de réviser. Ah oui, qu'est-ce qu'on entend par contentement, qu'est-ce qu'on entend par renoncement, enfin, les trucs comme ça. Et puis. Et donc, je vais faire ça sur deux séances. Et les questions, je vais pas prendre les mêmes.
Parce qu'on a gardé.
Et ouais. Puis, je vais en profiter pour revoir des thèmes qu'on a vus cette année. Là, donc, je crois que la dernière fois, on avait terminé hein, la prière à la lignée. On avait été jusqu'au bout. Et donc, du coup, ce soir, bah, j'improvise une séance un peu... voilà...
La reprise des chillings, c'est quand ?
C'est en septembre. C'est-à-dire, quand on dit reprise des chillings, en été, il n'y en a pas. Juillet, août, il n'y a pas de chilling. Donc, on reprend en septembre. Puis, en septembre, on attaque sur un nouveau thème. Et en général, on recommence avec les bases. Voilà. Donc, bah, ce soir, ce que je vous propose, c'est de... Bon, on va commencer par les quatre idées fondamentales sur le petit texte.
T'en as d'autres ?
Ouais.
Tiens. Merci.
En fait, je préfère qu'on commence par un temps de méditation. C'est ce que j'ai fait de la route, je ne suis pas encore dedans. Donc on va faire un temps de méditation et puis je vais guider pour les personnes qui méditent depuis pas longtemps. Donc on va pratiquer la méditation du calme mental. D'abord, on va prendre quelques minutes pour détendre le corps. Avec le dos le plus droit possible. Et confortable. On prend voilà, quelques minutes pour faire un petit scanner corporel. Et voir s'il y a des zones de tension dans le corps, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des muscles du visage. Et laisser les muscles se détendre tranquillement, le plus possible. Dans cet exercice, on va garder les yeux ouverts pour rester en contact avec tout ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas de se couper de quoi que ce soit. On est très conscient de tout ce qui se passe. Mais le regard aussi est très détendu. On porte le regard devant soi, à l'oblique. Sans forcément fixer quelque chose. On est simplement conscient du champ visuel devant soi. Mais on ne regarde rien de particulier. Les yeux sont ouverts, naturellement. Sans tension. Et on s'installe tranquillement dans le moment présent. On prend conscience de ce qui nous entoure. On prend conscience de l'atmosphère de la pièce. On prend conscience de la température de la pièce. Des sons. On fait rien de particulier, on est simplement assis là, tranquillement. Aucune rigidité dans le corps. Le corps est détendu, le regard est détendu, l'esprit est détendu. On est simplement là, présent, à ce qui se passe. Prend conscience de la respiration. On prend conscience du va-et-vient du souffle au niveau du bas-ventre, à l'endroit où on sent le ventre qui se soulève et qui s'affaisse. Sans modifier le rythme respiratoire. Et tout au long de la méditation, on maintient une légère attention sur la respiration, comme un rappel, comme un point d'ancrage qui nous ramène au moment présent. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on est parti ailleurs, qu'on s'est laissé embarquer par une pensée, par une préoccupation, rien que le fait de s'en rendre compte, c'est qu'on est plus distrait, c'est qu'on est attentif à nouveau. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à revenir sur la respiration, sans se poser de questions. On laisse tomber ce qui nous préoccupait, on y reviendra plus tard. Là, pendant ces quelques minutes, on s'autorise à être en vacances de toute préoccupation, à laisser les choses en suspens, éventuellement non résolues. s'autorise à être libre de toute préoccupation et on revient reporter notre attention sur la respiration. On continue d'avoir des perceptions, on continue d'entendre des sons, on continue de faire des commentaires dans l'esprit, on continue d'avoir des pensées, parfois il y a beaucoup de pensées, parfois il y a peu de pensées. On observe. En s'autorisant à ne pas se laisser perturber par tout ça, par le fait qu'il y ait des phénomènes ou pas de phénomènes. On observe simplement. Sans retenir, sans bloquer, sans faire de procès. Sans attente, sans crainte.
lumière.
Moi, ça va. Ça va pour vous ?
Mmh.
Alors, on va lire les quatre idées fondamentales. Et puis, comme d'habitude, après chaque paragraphe, on s'arrêtera pour les approprier. Ça va pour la méditation ? C'est pas trop difficile ? Ça va ? Alors, on va commencer par la précieuse condition humaine, qu'on peut lire ensemble. J'ai obtenu une existence humaine, c'est une chance inouïe pour donner sens à ma vie. Conscient de cette précieuse condition, je goûte le prix de chaque instant. Sachant que tous les êtres souhaitent le bonheur, chaque rencontre est digne de considération. Sachant ma mort certaine, l'aspiration est d'autant plus noble. Aussi, je me consacre désormais et dans toutes mes vies futures au service de l'éveil et d'autrui. Donc, la précieuse condition humaine. Dans les quatre idées fondamentales, quand on parle de la précieuse condition humaine, c'est on parle de notre potentiel. Nous avons un potentiel énorme. C'est de ça que ça parle. C'est le fait qu'on prend en considération notre condition actuelle et on se rencontre. Enfin, en tout cas, le Dharma nous invite à observer que cette condition est très privilégiée. Alors, quand on parle de la précieuse condition humaine, dans le Dharma, ça ne concerne pas forcément tous les humains. Ça concerne les humains qui ont, des conditions intérieures et extérieures favorables qui leur permettent, en fait, de donner... un véritable sens à leur vie, pour ne pas dire le sens ultime, c'est-à-dire la libération, qui ont toutes les conditions pour en fait accomplir ce qu'il y a de plus haut pour un être, c'est-à-dire l'éveil, la compréhension de ce qu'il est profondément, et la compréhension de ce que sont les choses, ce qu'est l'esprit. Et on appelle ça l'éveil. L'éveil, c'est on réalise ce qu'on est déjà. Simplement, aujourd'hui, si on n'est pas éveillé, c'est parce qu'on ne réalise pas... on est Bouddha, mais on ne le sait pas. On a tout sous la main, mais on ne le sait pas. Il n'y a aucun problème avec ce qu'est notre esprit, simplement on ne comprend pas. Il y a un malentendu, il y a une méprise sur notre esprit. Mais quand on a la précieuse existence humaine, eh ben, ça veut dire qu'on a les conditions intérieures et extérieures pour réaliser ce potentiel. C'est-à-dire que ça ne soit plus un potentiel, mais que ce soit actualisé. Et tous les êtres humains n'ont pas ça. Et on ne parle pas seulement... Voilà, quand on parle de précieuses conditions humaines, on va aussi comparer à d'autres formes d'existence. On va comparer avec les animaux, par exemple. La dernière fois, j'avais proposé la méditation de la vache, que renseigne Mingyu Rinpoche, où il y met dans la peau... Voilà, on se met dans la peau d'une vache. On l'avait fait, hein, ici. Hein. Et puis, c'était intéressant, parce qu'il nous fait avancer dans tous les aspects d'une vie de vache, pour que vraiment on se mette dans la peau d'une vache. Alors d'abord on médite sur la forme, et puis on se sent dans ce corps très lourd, et puis très limité, qui se... Voilà, le nez sans arrêt, l'échine tout le temps courbée, en train de mâcher de l'herbe, on passe notre journée à mâcher de l'herbe, et puis ensuite l'autre partie de la journée à digérer. Il y a plein d'aspects qui étaient intéressants dans cette méditation, qui peuvent marquer... On pense aux mouches qui nous tournent autour sans arrêt. On pense au fait qu'on n'est absolument pas libre d'orienter notre vie. Parce que, pour beaucoup d'animaux d'élevage, c'est de l'esclavage par les humains. Parce que parfois, les conditions de vie sont très pénibles. Dans le meilleur des cas, on passe la vie dans le pré. Et puis, on dort dans une étable. Et puis, ce n'est pas forcément une étable propre. C'est une étape sale, puis on est victime des intempéries, de la météo, etc. Qu'est-ce qu'il y avait intéressant ? Il y avait aussi la durée de vie. Il parlait de la durée de vie de la vache. C'est vrai qu'on peut estimer la durée de vie moyenne d'une vache, d'élevage, c'est 10-15 ans, pas plus. Et puis ensuite, on était invité à comparer avec la vie humaine, le fait que quand on met ça en parallèle avec notre vie, on se rend compte de la liberté qu'on a, mais c'est juste incomparable. Tellement de passer d'une expérience de vache à une expérience de vie humaine où on peut aller partout. quand on veut, manger ce qu'on veut, quand on veut. On peut faire plein de choses. On peut orienter notre vie comme on veut. Voilà, enfin, après, plus ou moins. Hein. Mais en comparaison, c'est inestimable. Ouais, la durée de la vie, par exemple, moi, c'était une des choses qui m'avait marqué, de voir que, bah oui, une vie de vache, 10-15 ans, se rappeler, enfin, se souvenir que quelle expérience de la vie on avait à 10-15 ans. Voilà, on n'avait pas, par rapport à quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça n'a rien à voir, l'expérience qu'on a de la vie. Et c'est très peu pour donner sens à sa vie. C'est important aussi de voir que les animaux... Alors l'idée, c'était pas forcément de se dire, oui, mais peut-être que la vache, ça lui plaît bien d'être dans son pré. Quelqu'un m'avait dit ça. Bah oui, mais après tout, on ne sait pas comment elle le vit. Peut-être qu'elle est bien, elle, dans son pré. L'idée, c'est de se dire, ok, mais est-ce qu'on échangerait, là, tout de suite, notre vie contre la vie d'une vache? Est-ce que ça nous plairait de passer notre vie à manger de l'herbe dans un pré? Ça peut être agréable à un moment, hein, faire un petit pique-nique dans un pré, mais sa vie à manger de l'herbe, est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait parlé de la vie de chat. Ce qu'on pense, voilà. La vie de chat, bah oui, c'est vrai, de l'extérieur, on pourrait se dire, bah ouais, tranquille, pendant que je vais au boulot, bah lui, il passe sa vie à dormir sur le canapé, et puis on le regarde, un vénard, quoi. Mais en même temps, si on y réfléchit, est-ce que c'est ça qu'on souhaite, passer notre vie sur le canapé, puis quand on mange, on nous sert toujours le même bol de croquettes matin, midi, soir. Voilà, est-ce qu'on échangerait? Est-ce qu'on échangerait? Après, comment vit le chat? Comment il le vit le chat? C'est une autre affaire. C'est vrai que personne ne peut le dire. Mais nous, en tant qu'êtres humains, est-ce que par rapport à la liberté qu'on vit, même si parfois, franchement, notre vie peut nous sembler pénible, avec plein d'aspects imparfaits, insatisfaisants, etc., est-ce qu'on échangerait contre peut-être la vie qui nous semble simple d'un chat, mais où quelque part, il n'y a pas d'évolution. Il y a peu d'évolution dans la vie des animaux. C'est-à-dire qu'on voit de la naissance à la mort, les comportements ne changent pas, ne varient pas vraiment. Comparé à ce qu'on peut voir chez les humains, où la vie peut... Il y a plusieurs vies dans une vie, parfois. Voilà. Mais il y a aussi des humains qui n'ont pas la précieuse existence humaine. Dans le sens où il y a des humains... en comparaison, il y a des humains qui vivent dans des environnements qui sont tellement, tellement durs, tellement pénibles, qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas le loisir, il n'y a pas l'espace, ou il n'y a pas les conditions intellectuelles aussi. Peut-être il y a des handicaps qui font qu'on n'a pas vraiment la possibilité de transformer son esprit, vraiment, de travailler sur son esprit, parce qu'on est accaparé par trop de choses, trop de souffrances, trop de problèmes, etc. Ne serait-ce que de devoir se nourrir. Pour nous, ça, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose de très banal. Voilà, on pense pas à ce... Voilà, on sait que notre frigo est plein. On pense pas à qu'est-ce qu'on va manger demain. On va dire que c'est réglé. Mais en fait, c'est pas banal. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui se rejoue au jour le jour. Où est-ce que je vais dormir? Alors que nous, bah, le fait de dormir dans une chambre chauffée, ça nous paraît très évident et c'est pas si banal que ça. Si on a ça, c'est au contraire, c'est un grand privilège qui fait qu'on va avoir de l'énergie pour autre chose. Et puis, paradoxalement, il y a aussi des animaux qui vivent dans des endroits, on pourrait dire, extrêmement privilégiés, dans des manoirs, dans des environnements très riches, et pourtant, des chats, des chiens, et malgré toutes ces conditions-là, ils vont pas pouvoir vraiment avoir les conditions pour travailler sur leur esprit. Pour comprendre qu'est-ce qui est un acte vertueux, c'est-à-dire un acte qui va avoir qui va être efficace à nous éveiller, efficace à nous rendre heureux, et qu'est-ce qu'un acte non vertueux, c'est-à-dire qui sera pas qui pourra pas remplir cette fonction-là, qui au contraire ne fera qu'accroître la confusion. Donc voilà, ça c'est la précieuse existence humaine, c'est le potentiel. Et ensuite, on va parler de l'impermanence. L'impermanence, c'est l'idée qu'on a ce potentiel, mais il n'est pas acquis. Parce que c'est impermanent. Tout change tout le temps. Donc ça va nous permettre de développer l'idée que il faut en tirer le meilleur parti possible de cette existence humaine. Alors, l'impermanence et la mort. Les quatre marques de l'impermanence sont constamment à l'œuvre. Satisfaction et insatisfaction sont le fait de prendre pour permanent ce qui n'est que la réunion de causes et circonstances. Il n'existe aucun état définitif, tout comme la manifestation et les événements, mes états d'âme sont transitoires. Mon être n'est qu'un devenir perpétuel, un flot incessant, sans naissance ni mort. Prendre conscience de cela est la véritable libération qui traverse toutes les vies. Pareil, on va s'arrêter un peu sur l'impermanence. François, tu veux bien allumer la lumière, s'il te plaît ? Il commence à faire un peu sombre. Donc l'impermanence, c'est un... Donc ça parle du fait que tout change tout le temps. Et c'est quelque chose qui est facile à identifier, on peut en prendre conscience facilement. Un enfant peut en prendre conscience, tout change tout le temps. On regarde n'importe quel phénomène, n'importe quelle situation, n'importe quel, que ce soit notre corps, que ce soit les saisons, que ce soit les gens, que ce soit les situations, tout change tout le temps. Les saisons changent, l'univers change. Et plus on regarde profondément, plus on se rend compte qu'il n'y a pas un instant où il n'y a rien qui change. Pas une fraction de seconde, il n'y a rien qui change. Et cette méditation, on va beaucoup en parler dans le Dharma parce que ça nous permet d'aller très très loin dans la compréhension des choses. D'abord, on va en parler pour dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Beaucoup de maîtres vont dire l'impermanence, on a ce potentiel, mais il n'est pas acquis. Donc, il faut en tirer le meilleur parti et, se rendre, et prendre conscience qu'on n'a pas tant de temps que ça. Parfois, on a l'impression qu'il y a du temps. Quand on a, je sais pas, 50 balais, on peut s'imaginer, je peux miser sur 30 ans. Il me reste 30 ans à vivre. Déjà, ça, c'est quelque chose de très aléatoire, quoi. C'est vraiment très optimiste parce qu'on n'en sait rien. Et puis, quand bien même il nous resterait 30 ans à vivre, observons que ces 30 ans, en fait, là aussi, on se fait une idée. 30 ans devant soi, non, parce que sur les 30 ans, j'avais lu un texte, je crois, de Tsongkhsa Rinpoche, où il disait, sur les 30 ans, déjà, il va y avoir, on va dormir 7 à 8 heures par nuit, donc déjà, ça enlève 10 ans. Donc 30 ans, 10 ans moins, 20 ans. Et puis ensuite, il disait, va falloir passer... aller peut-être 6 à 7 heures au boulot par jour, et puis il va falloir prendre 3 repas par jour. Après ça, il disait, il va falloir donc éventuellement caser, on a besoin de soupapes, divertissement, caser le fait d'aller... Alors, j'ai même pas parlé de s'occuper des parents, s'occuper des enfants, ça c'est un gros morceau. Là-dessus, aller boire un verre avec des amis, faire de l'exercice, aller une petite séance de ciné, et puis ça grappille. Et on se rend compte, finalement, il ne nous reste pas grand-chose. Et puis il rajoutait, sur ce pas grand-chose, tout le temps qu'on passe à stresser, à angoisser, à se faire des nœuds au cerveau, etc. Donc il reste très très peu de temps pour pratiquer. Voilà, le fait de comprendre que non, l'idée qu'on a du temps, c'est une idée. On a peu de temps. Ça nous invite à, du coup, orienter. On cherche le bonheur, bien comprendre c'est quoi les priorités. Hiérarchiser. Qu'est-ce qui... là-dedans, en fait, il y a beaucoup de choses. On n'y échappe pas, quoi. Dormir, manger, s'occuper de la famille, etc. Mais, du coup, c'est comment on va le faire. Comment on va le faire. C'est ça qui est important. Si on cherche le bonheur, ne pas oublier que... on a ce potentiel-là, comment vivre les choses, comment apprendre à vivre les choses, à réagir aux choses, au fait que les choses soient là, qu'elles ne soient pas là, de la bonne manière, de façon à voir qu'est-ce qui rend notre esprit heureux, paisible et qu'est-ce qui nous, voilà, qu'est-ce qui nous fait goûter à la libération. Alors ça, c'est un aspect de l'impermanence qui est assez, voilà, qui est assez simple, mais en fait, l'impermanence, il y a beaucoup à en dire. Parce que quand on commence à observer l'impermanence, donc vraiment dans un regard plus poussé, au départ, on présente ça pour quelqu'un qui découvre le dharma, bah voilà, on parle de l'impermanence, on parle du fait que tout change tout le temps, c'est facile à observer, etc. Mais ensuite, ça va très très loin. Hein. On n'utilise même plus le mot impermanence dans un certain contexte, on va plutôt utiliser le mot transitoire. Parce qu'impermanence, c'est encore une façon de voir relative. C'est les choses apparaissent et puis elles ont une certaine durée, puis ça ne dure pas. On utilise le mot impermanence. Le mot transitoire est plus juste. Parce que quand on comprend que tout est sans arrêt en mutation, on observe que les choses qui nous apparaissent, elles sont jamais vraiment là. C'est-à-dire, elles apparaissent comme ça à un moment donné, mais c'est déjà en mutation. Et puis, avec la méditation, on va y associer vraiment la contemplation des phénomènes. En voyant que, quand on est en mutation, bien sûr, on fait la seule façon de connaître les choses, on a affaire à un processus qui est sans arrêt transitoire. C'est sans arrêt fluctuant. Donc ce processus, il n'est pas connaissable. C'est juste un processus. Il n'y a jamais une chose. Mais nous, pour pouvoir fonctionner avec ça, eh ben notre esprit, il fait des échantillons, il fait des carottes dans ce processus. Et c'est très pratique, cette faculté de l'esprit, de faire des concepts. C'est ça. En tibétain, on dit des sams. Samskara, c'est l'activité de l'esprit qui fait que pour connaître les choses, parce que comme elles sont inconnaissables, c'est un processus, eh ben on va les nommer, mais on va les nommer à partir d'un échantillon. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un arbre, parce que c'est faut y aller tranquille avec ça. Mais c'est très, très... Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je prends l'exemple d'un arbre. Quand on parle d'un arbre, en fait, c'est notre mental qui va faire une carotte, qui va faire un échantillon sur un processus qui, de la graine, ça donne une pousse, qui donne une plante, qui donne un arbre. Mais ce processus-là, il ne nous dit pas quand est-ce que c'est quand le début de l'arbre. C'est un processus. Mais nous, en tant qu'humains, pour en parler, eh ben, on va décréter. Et d'ailleurs, on n'y a pas de consensus qui dit c'est à tel moment que c'est un arbre. Mais on se comprend. Là, c'est une pousse, et puis à partir d'un certain moment, on ne parle plus d'une plante, on parle d'un arbre. À partir de quoi? Voilà, pour certains, ça sera à tel stade, pour certains, d'autres, à tel stade, etc. On peut se mettre d'accord, mais le processus, lui, il s'en moque. C'est pas lui qui se désigne « bonjour, je suis un arbre ». C'est nous qui faisons une carotte dans un échantillon. Pareil, quand on parle d'une plante, c'est une carotte dans un échantillon. C'est le concept. C'est cette faculté du mental de faire un échantillon dans un processus pour pouvoir en parler. On appelle ça des SEM, des SAM. SAM. Ouais, SAM, une capture. SAM, c'est capture, comme une capture d'écran. Capture d'un moment de processus. Mais dans le dharma, dans la méditation, on va apprendre à ne pas être dupe de ça. C'est super de faire des SAM. Encore heureux qu'on fait des SAM, qu'on fait ces captures pour pouvoir en parler, pour pouvoir. Mais on ne va pas être dupe. On va apprendre à comprendre que. Tout ça, tous ces mots, ne désignent pas une réalité. Quand on parle d'un nuage, on parle d'un processus. Qui est un processus qui naît en interdépendance de plein de choses. Il y a de l'eau, il y a de la chaleur, et à un moment donné, ça donne un nuage. Et ce nuage, ben, en fait, on tourne la tête, on revient dessus, c'est déjà un autre nuage, c'est déjà une autre forme. Mais ce n'est pas le nuage qui dit un nuage, c'est un processus. Et ensuite, ce nuage... Et ben, reprendra la forme de l'eau solide, et à ce moment-là, on désignera ça comme de l'eau. C'est plus un nuage, c'est de l'eau. Mais à partir de quoi? Ben, à partir d'un instant de conscience. Instant, on désigne les choses. Mais en même temps, le pratiquant, il va observer ça. C'est-à-dire, tout en voyant les fabrications de son esprit, il va comprendre que ça ne désigne pas une réalité. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un nuage là. Si je vous dis ça, c'est parce que... oh là. C'est parce que dans le dharma, on va beaucoup parler de vérité absolue, vérité relative. Et on peut se faire des nœuds au cerveau avec ce truc-là. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple. Enfin, je pense hein, que c'est chiant à expliquer. C'est très pénible à expliquer parce qu'il faut le goûter par l'expérience pour voir de quoi il s'agit. Mais en fait, je pense que c'est très simple. C'est de comprendre que, en fait, la réalité, ce qu'on appelle la réalité, il s'agit toujours de notre réalité, de la façon dont on voit les choses. Et cette réalité, entre guillemets, elle est pas, c'est pas la vérité, puisque c'est toujours à travers nos conditionnements qu'on la voit. On n'échappe pas à ces conditionnements. Même quand on voit une lumière, je ne sais pas, un feu, un phare, une étoile, mais qu'est-ce qu'on voit en fait ? C'est toujours une interprétation, ça passe par notre œil, et puis ça envoie un signal à notre cerveau, etc. Mais ça, déjà, rien que le corps est un conditionnement en soi, et puis on n'a pas le même corps qu'un autre. Un chat, il verra peut-être autre chose. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? N'empêche que ça reste une réalité relative à nous-mêmes. Mais ce qu'on va simplement, ce qu'il faut qu'on arrive à voir, comprendre, réaliser, c'est que il n'y a pas une vérité au-delà de ça. Il n'y a pas une réalité autre. On ne peut voir la réalité qu'à travers des conditionnements. Donc on ne voit jamais la réalité. On voit notre réalité. Et un autre verra sa réalité. Et l'éveil, ce n'est pas voir une réalité qui serait au-delà de ça. C'est peut-être voir le dénominateur commun à toutes ces réalités, mais on n'échappe pas à quelque chose qui est relatif. Et c'est ça qu'on nous fait comprendre, que tout est relatif. Tout est relatif. Et c'est ça la vérité ultime. C'est de comprendre que ce que je vois, ce n'est pas tel que ça, que c'est, véritablement. Mais par contre, là où on peut jouer, là où c'est toute la pratique se joue, c'est comment je vis les choses. On ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont, mais on peut apprendre à... On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais par contre, on voit les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les réagit, telles qu'on les vit. Et c'est là-dessus que se pose le dharma. Mais déjà, ça peut nous apporter beaucoup de savoir qu'on n'est pas en train de chercher une vérité au-delà, enfin, quelque chose qui serait autre chose que notre réalité relative, parce que même si on change, même si on transforme notre esprit, notre état d'esprit, même si on change de corps, eh ben on verra toujours les choses à travers un conditionnement. Et à partir de là, ben ça sera toujours une vérité relative, une réalité relative, et pas la réalité. Mais surtout, il faut pas qu'on se mette à dire « donc c'est relatif, donc rien n'existe ». Et il y a plein de gens qui tombent dans ce panneau-là. Vérité relative, quand on parle de la vacuité des choses, bah, qui vont tomber dans le panneau que de « donc si ce que je vois, ce n'est pas la vérité, donc c'est qu'il n'y a rien là ». Mais si, la preuve, c'est évident. Bien sûr qu'on voit, bien sûr qu'on entend, bien sûr qu'on ressent les choses. Le fait de dire « il n'y a rien là », c'est nier qu'on est en train de vivre une expérience, c'est complètement tordu. Vous voyez, on voit les choses, on ressent les choses, mais on est en train de se convaincre que « non, il n'y a rien, il n'y a rien ». C'est vide, c'est pas... Oui, c'est pas existant au sens... ultime, c'est pas une vérité. Mais pour moi, ça existe. Enfin, voilà, il y a, je perçois des couleurs, je ressens des choses, et puis bah, là, c'est pas vide, quoi. C'est du concret. Même si ça se joue au niveau de l'esprit. Voilà. Ouais. Même si ça reste une expérience de l'esprit. Mais n'empêche que ça reste une expérience qui est qui, elle ne reflète pas la vérité, elle est ma vérité, et c'est là-dessus que je travaille. Il n'y a que ça qu'on a sous la main, notre réalité. Elle est relative, mais en tout cas, dans le dharma, on part de ça. C'est, ce que je vis, ce n'est pas comment sont les choses, mais c'est comment je les vis. Donc là-dessus, il y a un grand potentiel d'action. On peut apprendre à, dans notre façon de vivre les choses, dans notre façon de réagir aux choses, à être, à agir, à comprendre les choses, à agir et de façon à se libérer de nos conditionnements. se libérer de notre conscience, c'est pas qu'on arrête de voir, c'est pas qu'on arrête d'entendre, etc. C'est que malgré tous ces conditionnements, on peut être libre, heureux, tout à fait à l'aise avec le cadre qui nous est donné. Et même si on change de cadre, parce qu'on n'échappe pas à un cadre, le corps c'est un cadre, une situation peut toujours, et ça c'est important aussi à comprendre dans le dharma. Dans le dharma, on travaille sur son esprit, et bien sûr on peut changer de cadre à un moment donné, se dire cette situation ça ne me convient pas, ce boulot ça ne me convient pas, j'aimerais changer, etc. Mais dès qu'on change de cadre, et dès qu'on veut aller vers autre chose, parce que ce cadre ça ne nous correspond pas, on rentre dans un nouveau cadre, avec des nouveaux conditionnements, des choses qu'on avait et puis qu'on a pu, des choses qu'on n'avait pas et puis qu'on met sur le tapis, etc. Mais ça sera toujours ça. Et le dharma ne nous dit pas, à un moment donné, vous arrivez à un hors-cadre. Non, par contre, notre esprit est libre de tous les cadres. Il s'accommode de tous les cadres parce qu'il sait que, profondément, ce n'est pas la réalité, c'est une réalité qui vient de mes conditionnements, et je peux travailler sur mes conditionnements de façon à la vivre le plus à gérer, le mieux possible, notamment à gérer la façon dont je le vis, la façon dont je réagis, mes émotions par rapport à ça. Et plus on va se rappeler, plus on va savoir qu'il s'agit d'une réalité qui est relative, plus ça va ajouter de la souplesse en fait. On va voir que tout se travaille, tout se laisse travailler. Et que ce soit pénible ou pas, quelque part, ça sera toujours comme ça. Parfois, ce sera agréable, parfois, ce sera désagréable. Et l'éveil, c'est pas un endroit où il n'y a plus de problèmes à gérer. Il y a plus de... Par contre, tout se laisse travailler. On a l'entraînement qui fait qu'on s'adapte. Comme l'eau, voilà, l'eau, on la met dans un vase, elle prend la forme du vase, on la met dans un... C'est Bruce Lee qui dit ça. soyez comme l'eau, ça vient de me revenir. Enfin, il dit une phrase comme ça, mais je trouvais ça très chouette. Il dit soyez comme l'eau. L'eau, elle peut épouser n'importe quel cadre, et puis elle s'en accommode, quoi.
Une fois dans des chilling, tu as parlé d'un parking. Non, d'aller au garage. Et tu dis les différentes étapes pour aller au garage, qui en fait on n'aime pas aller au garage, pas avec la voiture. Et puis la même chose, tu dis exactement la même pour aller au resto avec ses copains. Et finalement, il y a le résumé, c'est que finalement je passe une mauvaise soirée avec mes copains, mais j'ai fait une bonne rencontre à aller au garage. Quoi. En fait, c'est un truc comme ça, c'est vraiment dans la perception, j'aime pas aller au garage. Ça m'embête, mais finalement, j'ai des tailles, je prends un autre regard. Et donc, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Alors qu'aller au resto, je suis contente d'y aller. Finalement, ça, c'est...
Voilà. Ouais, je devais en parler peut-être sur les a priori qu'on peut se faire par rapport à telle situation. Aller prendre un verre avec les amis, ça va être sympa. Ouais, et puis, finalement, pas sûr. Il s'avère qu'aller chez les amis, ouais, ça peut être un moment pénible. Et puis, on a envie de rentrer, etc. Et puis à aller au parking. Oui, je crois que je parlais des parking lots, parce que ça, c'est une expérience que j'ai vraiment fait un jour. Voilà, d'envisager le parking, un endroit glauque, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu une sorte de... Comment dire j'étais bien, j'étais dans le temps présent, et je me suis mis à apprécier ce moment où j'étais dans un parking. Et ça a été une découverte pour moi, de prendre conscience que c'est l'état d'esprit joue vachement, quoi. Parking look, etc. Vite sortir, etc. Puis là, j'étais parfaitement à l'aise, et le parking ne me renvoyait pas du tout quelque chose de glauque. Je le voyais, je voyais des murs, mais en soi, ça n'avait... Si j'enlevais toutes les projections que j'en faisais, tous les conditionnements que j'en faisais, parce que peut-être ça me renvoie à tel film ou telle expérience, voilà, sombre, etc. Le parking, il est ce qu'il est, quoi. C'est des murs, le béton, ils sont bien, mal, ils sont...
Ça m'a marqué, parce que maintenant, je suis dans une situation comme... Mais dans un parking, et puis...
La vision du monde, c'est-à-dire que les personnes perçoivent à travers leur ressenti, la vie, mais ça a aussi un impact sur les autres. C'est-à-dire une façon de percevoir la réalité peut amène à une Enfin, je veux dire, c'est pas uniquement personnel, ça amène à des systèmes politiques, ouais. des systèmes d'organisation.
Ouais.
Donc, qui ont aussi. C'est-à-dire, on peut avoir le meilleur état d'esprit possible, on peut quand même se prendre une balle.
Ouais.
Ça n'empêche pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a aussi un c'est pas juste intérieur, il y a aussi un échange avec la réalité extérieure.
Ouais. Et ça nous amène au karma. Merci. Parfaite la transition. Alors, donc, on va lire le petit passage sur le karma. Rien ni personne ne m'illusionne. Seules mes distorsions et leur causalité me voilent la réalité du monde, des autres et de moi-même. Je suis seul responsable de mes perceptions et seul auteur de mes réactions. Je suis seul juge des antécédents et seul j'en assumerai les conséquences. Que je ne sois plus le pantin du karma souillé, mais que s'exauce le karma naturel de l'éveil, qui est sagesse, compassion et capacité. Alors le karma, c'est une notion qui n'est pas facile. C'est-à-dire qui est facile ce que prétendent en tout cas les maîtres. C'est que quand on voit le karma, quand on le comprend pleinement, c'est très simple. Ça n'en reste pas moins difficile à expliquer. Et ça peut vite devenir compliqué quand on en parle, mais voilà, on va utiliser la façon traditionnelle de l'expliquer. C'est ce qu'on nous souhaite nous dire, c'est finalement, quand on parle de karma, on parle d'action, activité. Et ce que nous dit le bouddhisme, c'est une action vertueuse entraîne une expérience positive. Une action non vertueuse entraînera une expérience négative. Et comment on définit une action vertueuse non vertueuse ? Eh bien, on va parler de l'intention, la motivation qui sous-tend une action. Et dans le dharma, il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est-à-dire, il n'y a pas. On ne s'appuie pas sur un dieu, une parole divine qui aurait dit ça c'est bien, ou des critères ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de cette notion-là. Et avant d'en arriver là, pourquoi est-ce que... Parce que le Bouddha, il dit, ne croyez pas ce que je vous ai dit parce que vous me respectez, parce que j'ai beaucoup de disciples, etc. Il faut le valider par votre expérience. Donc, valider, en quoi on peut voir qu'il y a un lien de causalité entre notre attention et les résultats et les expériences qu'on fait dans la vie. Et d'abord, on nous parle de l'impermanence. Et avant d'aborder le karma, bien comprendre que pourquoi toutes les choses sont impermanentes. On peut se poser la question, pourquoi tout est impermanent ? Pourquoi tout est transitoire ? Eh bien, parce que toutes les choses sont interdépendantes. Ça, c'est la couche la plus profonde. C'est si on observe que toutes les choses sont impermanentes et qu'on commence à se poser la question, eh bien, on va s'intéresser au phénomène et voir que, en fait, tout est interdépendant. Les choses existent en interdépendance de plein de causes, de multiples conditions. Et donc, du coup, chaque chose a des répercussions. Nous avons des répercussions sur les choses, sur le monde, qui a des répercussions sur nous-mêmes. Et il n'y a rien qui naît sans cause et condition. L'interdépendance fait que tout... dès qu'il y a un paramètre, on ajoute un autre paramètre, ça donne un autre paramètre, qui a lui aussi des répercussions sur d'autres paramètres, et ce qui fait que dans cet échange de répercussions, il n'y a rien qui puisse être stable, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Dès qu'on rajoute un paramètre, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, par ce jeu d'interdépendance. Et puis ensuite, on va regarder que au niveau de notre corps, c'est pareil. On s'identifie volontiers à quelqu'un, et puis dès qu'on veut se définir, ça devient compliqué. Parce que c'est difficile de se définir. On aime bien se définir à travers ce qu'on... On se définit volontiers à travers des traits de caractère, ou à travers des opinions, ou à travers ce qu'on fait dans la vie, ou à travers notre histoire, etc. Mais on va se rendre compte que ça va être, on ne peut pas se définir vraiment parce que comme on est sans arrêt influencé et influenceur, bah du coup, on est aussi un processus qui change tout le temps. Et c'est intéressant aussi de le voir au niveau de notre esprit, que cette loi de causalité qu'on voit dans le monde, à travers les phénomènes, bah oui, effectivement, on peut voir que s'il y a de l'eau, s'il y a de la chaleur, ça peut donner un nuage. S'il y a telle humidité, ça peut donner un arc-en-ciel. Il y a une loi de causalité, voilà, interdépendante. Et puis selon l'angle de vue, voilà, je vois un arc-en-ciel, je change d'angle de vue, il n'y a plus d'arc-en-ciel, voilà, tout change, tout est interdépendant, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand on va voir aussi que ce que nous sommes, ce soi-disant quelqu'un défini, définitif, eh ben, c'est aussi un processus en interdépendance. C'est intéressant quand on va voir aussi qu'est-ce qui, quand on va regarder vraiment les mécanismes de l'esprit, les pensées qui s'élèvent. Pourquoi telle pensée s'élève? Est-ce qu'une pensée peut s'élever comme ça? On observe ça en méditation. Pour que telle pensée s'élève comme ça, ou tel facteur perturbateur, telle émotion s'élève, ben, y a toujours quelque chose qui déclenche une situation, une émotion même. Par exemple, on pourrait entendre un chien qui aboie, ça fait naître une pensée dans l'esprit. Et puis éventuellement, ça peut faire naître une émotion ou une situation. Ah oui, j'ai oublié, il faudra que je pense à nourrir le chien, il faudra que je pense à acheter des croquettes, etc. De voir que ce que nous sommes, entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui est sans arrêt fluctuant. Nos sensations changent, et elles sont dépendantes de multiples causes et conditions qui ne sont pas nous. Nos pensées changent, nos opinions changent, et notre façon d'agir est totalement influencée par ça. Et on dit, bah voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, on fait ceci, on fait cela, en pensant être vrai, le véritable acteur unique de ça. Bien sûr, c'est nous qui décidons si on agit de telle ou telle façon, mais de voir que ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas quelqu'un qui serait l'artisan de pensée, qui penserait comme ça. Rien que notre façon de penser, notre façon de réagir, elle est conditionnée, mais par tellement de choses. Pourquoi on aime ceci? Pourquoi on s'intéresse à ça? Pourquoi on ne s'intéresse pas à ça? Pourquoi ça nous énerve? De voir qu'en fait, ce processus qui est à l'œuvre, mais il est lié à de multiples causes et conditions, et que si on s'amuse à revenir en arrière, on voit que ça n'a pas de fin. Pourquoi on réagit comme ça? Peut-être parce qu'on a été élevé dans tel contexte, on a vécu telle situation dans tel contexte. Et puis pourquoi on nous a éduqués comme ça? C'est parce que c'est des antécédents, c'est un environnement, c'est... Il y a tellement, tellement de paramètres qui font que notre façon... Donc on fait avec les cartes qu'on a en main, c'est-à-dire nos conditionnements, mais c'est nous, et à la fois c'est pas nous, c'est l'univers entier. Vous voyez, il y a... On ne peut pas être... on n'est pas un système isolé. Et on hérite de tout un réseau de causes et de conditions qui fait qu'il y a une pensée comme ça. Et c'est pas tellement... Si on voit vraiment ça... Eh ben, on se désidentifie un peu de la pensée. Ce n'est pas tellement nos pensées. Bien sûr, on l'aperçoit, et donc, conventionnellement, bien sûr, je vais dire mes pensées. Ce n'est pas les pensées d'un autre. Je les vois, et l'autre ne les voit pas. Mais n'empêche que ces pensées-là, elles ne nous appartiennent pas. Voilà, on n'a pas le copyright de ça. Et, et si on comprend ça, déjà, ça va nous permettre de voir les pensées, de se calmer un peu avec les pensées. C'est-à-dire... s'il y a des pensées bonnes, pas bonnes, en méditation, hein, on nous apprend hein, à arrêter de mettre des étiquettes sur les pensées en disant « il y a les bonnes pensées, il y a les mauvaises pensées ». Au contraire, c'est le piège dans lequel on pourrait tomber si justement on ne comprend pas que ces pensées, ce n'est pas nous. Elles viennent de causes et de conditions qui font qu'il y a telle ou telle pensée. Et après, il va falloir agir avec ça. Mais on fait quoi ? Avec ça, avec toutes ces pensées qui viennent, avec toutes ces émotions qui ne nous appartiennent pas, qui sont là de cause et de condition, on ne sait même pas d'où elles viennent. Et on pourrait se faire des nœuds au cerveau de savoir d'où elles viennent, ça ne nous répondrait pas, mais n'empêche qu'il faut les assumer. On fait quoi avec ça? Et puis après, si on sait que tout est interdépendant, j'en profite, on pousse un peu l'interdépendance pour voir, on nous parle vachement d'interdépendance, mais qu'est-ce que ça implique au fond? Cette interdépendance, si on pousse vraiment le bouchon très loin, si on la regarde, Bien sûr, dans le dharma, on va nous dire, on va nous parler d'actes vertueux, actes non vertueux. Mais c'est quoi qui est vertueux? C'est quoi qui est vertueux quand on sait que si on fait quelque chose, est-ce qu'on aura la garantie que ce sera quelque chose de bien? Au regard de tout cet amas de causes et de... Tout cet amas de causes et de circonstances qui s'interpénètrent, qu'est-ce qui nous garantit que ce qu'on fait, ça va être bien? Je vais pas parler de l'intention, mais on en, allez, admettons, on a envie de bien faire. Et il y a quelqu'un qui nous, ce soir, on croise un autostoppeur. Est-ce que c'est bien de le prendre? Est-ce que c'est pas bien de le prendre? On pourrait se dire c'est bien de le prendre. L'autostoppeur, ça peut lui rendre service, etc. Mais après tout, on n'en a pas la garantie. Peut-être que même le fait de le prendre en stop, ça va lui causer des problèmes. Parce que, clairement, on n'est pas maître. On n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Peut-être on intègre un paramètre en croyant bien faire, mais ce paramètre peut être la cause du fait que il y a un accident. Voilà, ou ouais, un accident, un problème, etc. Et à la limite, quand on dit il y a un problème, un accident, et qu'est-ce qui nous dit que c'est un problème en fait? Peut-être que le fait d'avoir un accident, c'est peut-être bien pour. Vous voyez, je pousse le bouchon. Qu'est-ce qui nous dit que le fait d'avoir un accident, c'est bien, pas bien? Peut-être que ça peut être au contraire quelque chose de très salutaire pour lui. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte au Tibet, justement, pour vraiment nous faire comprendre que le karma, quand on pense karma, c'est pas d'avoir une sorte de regard très figé sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Parce que ça peut être très dangereux, en fait. Donc on nous raconte l'histoire d'une famille de fermiers. Le père, la mère, le fils. Et dans cette famille, ils ont un étalon noir qu'ils adorent. C'est vraiment... Ils adorent cet étalon parce que il leur rend beaucoup de services à la ferme. Et puis, en plus, ils donnent du fumier pour les récoltes, etc. Ils l'aiment beaucoup. Donc vraiment, les parents, le père le nourrit presque mieux que son fils, etc. Et puis un jour, sans crier gare, l'étalon disparaît. Il part. Donc ils sont vraiment très affectés, désespérés. Mais comment on va faire pour les récoltes, pour le fumier, etc. Donc ça génère beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. Et puis un beau jour, l'étalon revient avec une jument. Et là, c'est formidable, c'est la fête. Etc. Donc on débouche le champagne, enfin c'est pas du champagne là-bas, mais c'est du chang. C'est du chang. Et donc ils sont très très heureux. Et puis le fils commence à dresser la jument. Donc elle se laisse faire. Et puis ensuite il apprend à monter à cheval, etc. Et il a un accident, en fait. La jument fait une ruade, il tombe par terre et il se casse la jambe. Et là, ah là là, le père et la mère sont complètement désespérés parce que comment faire sans le fils qui s'occupe de la majeure partie des travaux de la ferme, etc. Donc c'est la catastrophe. Et puis, quelques mois plus tard, il y a l'armée tibétaine qui fait le tour des familles pour recruter les jeunes gens en âge de porter les armes, etc. Et puis, bon, bah, en fait, comme le fils a la jambe cassée, il est considéré comme invalide, et donc il ne peut pas rejouer l'armée. Et là, champagne, chang, chang à volonté. Et cette histoire, voilà, elle nous raconte bien que ce qu'on pense être bien, ce qu'on pense être mal, c'est tout à fait relatif. C'est tout à fait relatif. Le bonheur d'aujourd'hui peut être le mal de plus tard, qui peut être le bonheur d'aujourd'hui. Et bon, bam, ok, mais maintenant on fait quoi avec ça? On fait quoi avec le. Si on comprend vraiment, c'est de ça que ça parle l'interdépendance, c'est que. Pff. Et là, quand même, alors la seule. Donc là, le dharma nous invite à faire confiance à l'intention. S'il y a une intention qui est positive, le résultat sera de la nature de l'intention, il sera positif. Peut-être qu'à notre niveau, on ne peut pas le vérifier. Donc, à ce stade-là, eh ben, on nous demande de faire confiance à ça. Avec les cartes qu'on a en main, on est conscient qu'on n'a pas que les cartes en main, on est conscient qu'il n'y a rien qui soit absolument bien, absolument mal, et à la limite, tant mieux. Tant mieux qu'on ait ce doute. Parce que ce doute, ça nous permet d'avoir le libre arbitre. Il n'y a pas le sort du monde qui repose sur une décision qu'on va prendre. Ouf. Mais par contre, il faut l'assumer. Il faut assumer ce choix. Il faut assumer qu'on comprend qu'on n'a pas une vue d'ensemble. On ne peut partir que de notre réalité relative. On ne peut partir que des cartes qu'on a en main. Mais il faut assumer le fait, et à chaque fois, de savoir mais est-ce que ça va être bien, est-ce que ça ne va pas être bien. Et ça sera toujours présent. Et il faut pas. Et le fait de vouloir résoudre ça, ça peut être problématique, en fait, de rentrer dans une espèce de dogmatisme. C'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il ne faut pas agir, etc. Ça se voit à plein de niveaux, hein, que ce soit même comment on éduque les enfants. Est-ce qu'on devrait les éduquer comme ça? Parce que c'est ça qui est bien. Est-ce qu'on ne devrait pas les éduquer? Moi, je rencontre plein d'amis qui ont des enfants et qui me partagent leurs problèmes de « est-ce que je suis une bonne mère ?» Mais en fait, non. Enfin, je veux dire... Non. Parce que je veux dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Qu'est-ce qu'une bonne mère? Qu'est-ce qu'une mauvaise mère? Qu'est-ce qui est bien faire? Qu'est-ce qui est mal faire? Personne ne peut le dire, et même celui qui imposerait son modèle en tant que non, c'est ça qu'il faut faire, on voit bien que ça ne marche pas. Et même souvent, les gens qui sont traités, il leur arrive justement pas mal de problèmes à ce niveau-là, ça se voit souvent, quoi. Et donc, dans le dharma, si on comprend bien ça, on comprend qu'il y aura toujours ce doute dans l'esprit, mais il ne faut pas le voir comme un handicap, au contraire, il faut le voir comme quelque chose qui nous offre vraiment la totale liberté d'assumer ce choix. Comment je vais agir? Comment je peux faire avec les cartes que j'ai en main? Et faire de son mieux, et avoir de plus en plus de lucidité, de plus en plus d'habileté, de plus en plus de discernement pour vraiment prendre conscience en fonction de notre expérience, en fonction de la situation, etc., quel va être ce qui sera le plus bénéfique pour moi et pour les autres. Dans l'intention, donc qu'est-ce qu'une bonne intention, qu'est-ce qu'une mauvaise intention, du coup? On nous invite à faire confiance à l'intention. Si l'intention est bonne, vertueuse, l'expérience qui en découlera sera positive. Si elle n'est pas vertueuse, ce sera le contraire, pour nous et pour les autres. Alors ensuite, on en arrive, mais alors qu'est-ce qu'une intention vertueuse? S'il n'y a pas de bien, s'il n'y a pas de mal... Aïe. Au niveau le plus simple, et moi je trouve que c'est vraiment c'est très pragmatique, tout ce qui est motivé par la peur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs, et je parle de la peur parce que c'est le facteur perturbateur, hein. Quand on parle de facteur perturbateur, on va parler de l'aversion, de l'attachement, qui sont issus de l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait qu'on ne voit pas les choses clairement. On les voit de manière distordue, confuse, on n'a pas un regard très clair sur les choses, et on n'a pas une compréhension de ce que nous sommes. Donc on fonctionne en mode duel. Et dans ce mode duel, il y a beaucoup de confusion qui s'instaure, et il y a moi séparé des autres. D'ailleurs, on ne voit pas ce système interdépendant. On le boycotte, on l'ignore. Ignorance dans le sens, c'est pas je sais pas, c'est on fait comme si, quand on ignorait quelqu'un, c'est je t'es là, mais je fais comme si. On pourrait voir que les choses sont interdépendantes, ça se voit, ça se constate, etc. Mais on choisit de l'ignorer et se considérer comme un système isolé. Et plus on ignore ça, plus ça devient une réalité très très, 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 très forte, très, très ancrée, etc. Et donc, on fonctionne avec aversion et attachement. C'est les grosses conséquences de l'ignorance, avec plein de dérivés. On va parler de la jalousie, on va parler de l'orgueil, on va parler de la haine, on va parler de la peur, on va parler de ceci, cela. Mais aversion, attachement, c'est puisque je suis séparé des autres, il y a ce qui est bon pour moi, et puis il y a ce qui n'est pas bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, voilà comment je fais pour me l'accaparer, comment m'y attacher, tout le système d'avidité, d'attachement, d'aliénation, voilà. Ça, il me le faut. Puis tout ce qui me semble pas bon pour moi, je vais développer de la peur, de l'aversion. Comment éviter ça? Comment monter des stratégies pour surtout pas rencontrer ça, pour détruire, pour éviter... Voilà. Une action non vertueuse, c'est une action qui valide cette réalité-là. Je suis un système séparé du reste, avec des choses que je considère comme bon pour moi, donc tout ce que j'agis pour, qui maintient en fait cette croyance, qui maintient cette fausse compréhension, cette tentation vaine d'exister séparément des autres, c'est-à-dire en instaurant ce système, cette distance, aversion, attachement, va entraîner nécessairement, dukkha, la souffrance, parce que c'est une tentative désespérée. Elle ne reflète pas la réalité interdépendante. Donc, tout ce qui sera motivé par ça ne fera que renforcer cette croyance erronée et donc entraîner de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on va dire non vertueuse, parce qu'elle n'est pas vertueuse à l'éveil. Elle n'est pas vertueuse à nous faire voir les choses telles qu'elles sont. Au contraire, on ne fait que renforcer une habitude de fonctionnement, attachement, aversion. Donc tout ce qui est fait sous l'emprise de la peur ne fera que générer de plus en plus de peur, de plus en plus d'aversion. Tout ce qui est généré sous l'emprise de la haine, c'est toujours une tentative d'être heureux. Je pense que si je détruis la cause qui me fait souffrir, je serai tranquille. Je vais faire la guerre au pays voisin, je vais faire la guerre à mon voisin, je vais faire la guerre dans mon couple, je vais faire la guerre... pour résumer, c'est ça en fait, une intention vertueuse, c'est ce qui est motivé par les facteurs perturbateurs. On les identifie parce que ça va être plus facile d'abord, avant de travailler à un niveau plus profond, d'identifier c'est quoi un facteur perturbateur. On sait de quoi ça parle, l'aversion, la peur, l'attachement, la jalousie, l'orgueil. Voilà. Si on agit sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, de toute façon, il y aura pour résultat de la souffrance. Et donc, on va apprendre à les reconnaître, déjà, ces facteurs perturbateurs avec Shiné. Avec la méditation du calme mental, on apprend à reconnaître, à travers les phénomènes qui s'élèvent dans l'esprit, qu'est-ce qui génère des émotions perturbatrices. Il y a une méditation que propose Mingyur Rinpoche justement sur le karma, où on va travailler le karma, mais au niveau de la méditation. Donc comme il nous reste un petit peu de temps, on n'a qu'à faire ça. Oui, puis juste conclue par rapport à cette discussion, un acte vertueux, c'est justement un acte qui est libre des facteurs perturbateurs. Et c'est là qu'on va parler de la compassion. C'est-à-dire tout ce qui est tourné justement vers le bonheur de soi, en prenant en considération le bonheur de l'autre. Du coup, on est vraiment dans le registre de l'interdépendance. Les autres, c'est moi aussi. Et plus je prends en considération le bien-être des autres, la souffrance des autres, quelque part, je serai le premier servi. Et là, du coup, on se relie à quelque chose qui va nous apporter du bien, de la félicité, du bonheur, parce que c'est conforme à cette loi d'interdépendance. Alors, méditation guidée sur le karma. Asseyez-vous dans une position détendue, le dos droit. Gardez les yeux ouverts ou fermés. Reposez dans la conscience ouverte pendant quelques minutes. On laisse l'esprit naturel, sans fabrication, détendu. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes laissé emporter par la colère. Prenez une ou deux minutes pour vous remémorer cette expérience et ce que vous avez éprouvé sur le moment. Pensez à l'influence que la colère a exercée sur vos pensées, vos sentiments et vos actes. Qu'avez-vous dit, pensé ou fait quand vous étiez submergé par la colère? Qu'est-il arrivé ensuite? Comment la colère et les actes déclenchés par elle ont-ils affecté votre expérience dans le futur? Quel en a été l'effet immédiat? Y a-t-il eu des effets à long terme pour vous, dans vos relations ou votre entourage? Après avoir contemplé cette situation pendant quelques minutes, faites une pause d'une ou deux minutes en reposant simplement votre esprit dans la conscience ouverte. Revenez ensuite à la contemplation sur le karma. Cette fois, pensez au karma en termes de sentiments positifs, comme la compassion. Rappelez-vous un moment où vous êtes senti plein d'amour ou de compassion. Prenez une ou deux minutes pour vous remémorer ce sentiment. Essayez de vous connecter à l'influence de ce sentiment d'amour ou de compassion que ce sentiment d'amour ou de compassion a exercé sur vos pensées, vos sentiments et vos actes. Qu'avez-vous dit, pensé ou fait sous l'effet de ce sentiment? Qu'est-il arrivé ensuite? Comment ce sentiment et les actes suscités par l'amour ou la compassion ont-ils affecté votre expérience dans le futur? Quel en a été l'effet immédiat? Ont-ils eu des effets à long terme pour vous, dans vos relations ou votre entourage? Essayez de faire cela pendant 5 à 10 minutes. Terminer en reposant dans la conscience ouverte. Donc pour finir sur le karma, puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Le karma, donc on est amené à voir que c'est l'intention qui va donner le, c'est l'intention qui va jouer un rôle primordial dans le fruit, dans le résultat. Plus on va l'observer dans notre expérience de tous les jours, plus on va pouvoir le valider par notre expérience, plus ça va devenir, plus on va pouvoir faire confiance en cette loi du karma, de comprendre qu'il y a bel et bien une loi de causalité au niveau de l'esprit et qu'il y a des effets. Par exemple, on pourrait le voir dans des situations de voir qu'il y a des gens, par exemple, qui sont quand on est en contact avec des gens qui sont toujours avenants, toujours quand on les croise, ils ont toujours des mots attentionnés, des petites attentions, ils sont toujours soucieux de savoir si on va bien, et ça se ressent même dans la façon dont ils disent bonjour, que c'est très ils sont très présents, et en plus de voir qu'ils sont comme ça avec tout le monde, et ben de voir que vis-à-vis de ces gens-là, on a envie quelque part d'être sympa avec eux. Enfin, quand on reçoit ce genre d'intention, de bienveillance, quand la personne elle vient nous voir, on a envie d'être... on est enclin à se sentir bien avec cette personne et puis à lui rendre l'appareil. Ou si cette personne nous demande un service à jour, on a envie d'y répondre, quoi, naturellement. Et voilà, ça peut se voir dans notre entourage, des gens qui sont comme ça, et puis de voir que, effectivement, c'est des gens qui ont des amis. Mais après, c'est pas pour conclure, il faudrait être souriant tout le temps. Allez, en disant être souriant tout le temps, ça fait qu'on aura des amis. Ça dépend de l'intention. Parce que derrière le fait de sourire tout le temps ou d'être sympa avec tout le monde, là encore, il peut y avoir une intention derrière qui n'étant pas vertueuse, c'est-à-dire sous l'emprise, ça peut être la peur, peut-être quelqu'un qui envisage d'être aimé de tout le monde, qui aimerait tout, qui a le désir d'être aimé de tout le monde, en adoptant une attitude de bienveillance, de sourire, d'avenance, mais qui n'est pas, ou c'est pas l'autre qui est pris en considération en premier, c'est son souhait d'être aimé de tout le monde. Derrière, ça peut se nicher une peur ou un projet vain, quoi, de trouver le bonheur là-dedans, parce que c'est pas possible. De voir que à ce moment-là, ça marchera pas. Cette personne, en fait, au lieu d'avoir le résultat d'être aimé de tous, au contraire, elle sera sans arrêt inquiète de savoir est-ce que cette personne, je lui plais, je lui plais pas. Et donc, du coup, le résultat sera conforme à l'intention. Intention non vertueuse, ça va provoquer une expérience qui sera négative. Alors que le projet, c'est d'être heureux. Donc, dans le karma, on nous donne une trame. Ce qu'on va parler comme la trame générale, et après on dégrossit en fonction de notre expérience. La trame générale, c'est qu'il y a trois actes négatifs du corps, quatre actes négatifs de la parole et trois actes négatifs de l'esprit. Donc, vous les connaissez, ça ? Non, non. Ça sera au quiz, en jeu, le cas. Donc bref, les trois actes négatifs du corps, c'est tuer. Donc toujours avec l'intention. Tuer, prendre ce qui ne nous a pas été donné, voler. Conduite sexuelle incorrecte. Quatre actes négatifs de la parole, donc... le mensonge, la médisance,
les paroles futiles,
et quand on colporte des rumeurs, rumeurs, c'est la colporter des rumeurs fausses, c'est pas la médisance, c'est la calomnie. Oui. La calomnie. Et puis enfin, trois actes négatifs de l'esprit, ce qu'on appelle l'envie, c'est-à-dire ne pas se réjouir du bonheur de l'autre. En fait, on se sent malheureux du bonheur de l'autre. Les pensées malveillantes, c'est-à-dire qu'on se réjouit du malheur des autres. Et puis, les vues erronées. C'est-à-dire tout le fait, par exemple, de ne pas croire à la loi de causalité, de ne pas croire à l'interdépendance, à l'impermanence, les vues des extrêmes, éternalistes, nihilistes, etc. Toutes les vues erronées qui vont entraîner plein de problèmes, quoi. Voilà. C'est une sorte de cadre, une éthique que le Bouddha nous enseigne, que tout le monde comprend assez facilement parce que c'est même valable en société. C'est du bon sens, etc. Mais après, on va voir que l'intention joue beaucoup. C'est toujours tuer. Quand on parle de parce que bon, bah tuer, ça nous concerne très peu. Parce que là, on parle de tuer un être humain avec l'intention de le tuer, etc. Prémédité, etc. Mais ça peut nous arriver de tuer des moustiques sur la route parce qu'on roule, de renverser un chevreuil qui traverse. Il n'y a pas d'intention derrière. Donc il y aura des conséquences, mais et ce ne sera pas les conséquences de vouloir tuer. Et puis mentir, par exemple, ça dépend de l'intention. On peut aussi mentir pour sauver quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Et cette intention-là va primer sur le fait, sur le précepte, ne pas mentir. Oui, c'est mentir dans l'intention de tromper, en pensant vainement que c'est comme ça que je vais être plus heureux, que c'est comme ça que je vais pouvoir échapper à tel truc ou obtenir quelque chose. Mais mentir pour protéger quelqu'un, bah c'est en apparence un acte qui est censé être négatif, mais qui va avoir des conséquences positives, parce qu'il y a l'intention qui est positive derrière. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours les intentions. Donc on est amené à sans arrêt clarifier nos intentions à travers chaque acte. Pourquoi je pense ça? Enfin, pas pourquoi je pense ça, l'idée c'est pas de faire un. Mais de voir que la pensée, de voir qu'elle ne naît pas comme ça. Il y a des causes et des conditions. Et puis en fonction des cartes. Je ressens ça, comment je vis ça et quelle intention j'y mets. Voilà, et puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions?
Une question, oui, là. Si je veux dire, un comportement a des conséquences, il peut avoir aussi des conséquences à travers nous. C'est-à-dire si on est, comment dire, on est victime d'un comportement, donc il y a une régulation qui devrait passer à travers la personne,
À travers nous,
à
du
travers
coup?
nous-mêmes,
Ouais,
hein, ça.
d'accord.
Donc le fait de ne pas le laisser passer, c'est on garde la patate chaude, quoi. Donc c'est pas, enfin, si c'est pas super positif, ça.
Tu parles là, par exemple, quelqu'un qui aurait un comportement blessant ou
Voilà, par exemple,
irrespectueux et.
le fait de, donc, ça réclame enfin, une
Ça
conséquence.
réclame une réponse,
Donc
ouais.
pour une équilibrée, quoi, le fait de ne pas le faire, c'est qu'on reste avec cette charge-là. Ce qui est pas, enfin, ça, si on fait ça tout le temps, c'est pas très, comment dire, très sain comment tu le vis.
Ouais, alors, donc, c'est. Dans le Dharma, on va nous parler de la patience, du coup, dans ce genre de cas. La patience, c'est. Littéralement, c'est presque. C'est endurer, savoir endurer les. Comment c'est dit? Savoir endurer les circonstances adverses. Et savoir endurer. Quand on parle de la patience, c'est pas endurer pour endurer. C'est-à-dire. Il y a un truc négatif, j'endure parce qu'on m'a dit d'endurer. Non, non, c'est savoir endurer, c'est-à-dire pour avoir plus de cartes en main. Et l'exemple que moi j'aime bien citer, c'est une histoire que nous avait racontée un étudiant de Rinpoché Rinpoche lors d'un séminaire. Il avait partagé ça. Un jour, il était dans le train. Il avait une rude journée, quoi. Et puis à côté de lui, il y avait un père avec ses deux enfants. Et puis les enfants, ils hurlaient dans tous les sens, quoi. Ils étaient complètement déchaînés. Et puis le père, il faisait rien. Il restait à la fenêtre, etc. Et donc l'autre, pratiquant du dharma, bon, moi, je pratique la patience, mais bon, ça montait dans les tours. Et puis le père, il dit rien. Et puis je vais lui dire. Bon, bah voilà, quand même, il se laissait le temps de. Et au moment où il allait exploser, il y a le père qui se tourne vers lui et qui lui dit, vous savez, je suis désolé, en fait, la mère des enfants vient de partir et je suis effondré, je suis perdu, je n'ai aucun contrôle, voilà, désolé. Et la personne, elle a dit qu'au moment même où il a dit ça, son élan de colère, il n'a même rien eu à faire, en fait, ça s'est transformé en empathie. C'est immédiatement. Il n'y a pas eu quelqu'un qui essaye de gérer sa colère. La colère a disparu instantanément pour laisser place à de l'empathie, etc. Et c'est pour ça qu'on nous enseigne la patience. La patience, c'est pas endurer pour endurer, c'est apprendre à gérer l'inconfort de la colère. C'est pas genre c'est une bombe à retardement, vous savez, où on marche sur un pied, non, je sens rien, c'est lisse, je pratique. C'est, faut pas comprendre la patience de genre, ça glisse, je ne sens rien, etc. Parce que ça, c'est bombe à retardement. C'est-à-dire, si ça explose pas, ça implose. Et effectivement, là, on se fait des ulcères, etc. Donc, il est tout à fait juste de savoir répondre à une situation fermement. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on marche sur le pied, bah, je le dis, je le manifeste, je le communique, je fais comprendre que là, il y a un problème. Après, je ne suis pas obligé de mettre en colère. C'est-à-dire, considère la colère, c'est... Ouais, quand on parle de la colère, on la différencie de l'irritation. C'est chiant, hein, les termes, mais... Non, ce n'est pas chiant, au contraire, je pense qu'il faut être très clair avec les termes. Nous, quand on parle colère à l'occidental, on parle d'un sentiment. Alors que dans le dharma, colère, c'est réagir poussé par l'irritation. On parle de l'action, c'est-à-dire se mettre en colère. Alors que, donc ça, dans le bouddhisme, on dit c'est pas bon. On n'est pas libre à ce moment-là. On est poussé par une émotion et donc du coup, on n'a pas la liberté de répondre comme on voudrait. Ça peut sentir, hein, même un ton trop acerbe, trop truc, c'est qu'il y a l'émotion qui prend le dessus et puis parfois, bah, c'est dommage collatéral, quoi. On voulait juste dire un truc, mais avec le ton qu'on y a mis, bah, l'autre, elle l'a pris en pleine poire et puis c'est agressif. Bon, voilà. Et puis, mais par contre, l'irritation, pas de problème. Il est tout à fait... s'il y a irritation dans l'esprit, elle naît de cause et de condition. Ça braille à côté, on n'en peut plus en une journée, donc il y a de l'irritation dans l'esprit. C'est pas, y a pas lieu de se condamner pour ça, si on comprend l'interdépendance. C'est pas notre irritation, il y a des causes et des conditions, mais par contre, avec la patience, justement, on va observer cette irritation, se désidentifier, comprenant que c'est, voilà, il y a des causes et des conditions, mais on nous invite à endurer. Endurer, ça veut dire apprendre à faire avec, pour avoir le temps, l'espace de mieux comprendre la situation, peut-être sur plusieurs angles, voilà, plutôt que tout de suite répondre, exploser, et donc du coup créer plus de problèmes que ça. Et la colère, elle se présente souvent comme un allié, hein. Je vais piquer une bonne collante, comme ça, ça va s'arrêter. Et parfois ça marche. Parfois ça marche, mais justement ça pose un autre problème, c'est que on se dit, puisque ça a marché cette fois, la prochaine fois je vais réagir avec la colère. Et c'est ça qui donne un colérique. C'est-à-dire, d'une habitude de fonctionnement, on plante des empreintes karmiques. Et le karma d'un colérique, c'est que j'ai l'habitude de partir dans les tours. Et en fait, c'est une habitude. Mais on peut aussi prendre l'habitude de patienter, se laisser de la marge. Et patient, ça ne veut pas dire j'agis pas. Ça veut dire que j'ai les cartes en main, donc là maintenant je peux agir, je peux répondre en fonction de ce que j'ai, et on peut aussi se planter, mais au moins la réponse sera tout à fait différente. Parce que ne serait-ce que d'avoir attendu 10 minutes, parfois, il n'y a pas que les maîtres tibétains qui disent ça, moi j'ai vu ça dans des méthodes hautes de psychologie, quand on a une grosse émotion, simplement de tourner cette fois la langue dans sa bouche, on le dit aux enfants, ou d'attendre 10 minutes, déjà l'émotion, elle a le temps de baisser d'un cran et on voit autre chose. Et on répondra donc forcément différemment. Mais on répond. On répond. Et c'est le dharma, la patience, c'est pas d'être gentil. C'est pas de brosser les gens dans le sang du poids. C'est d'apprendre à répondre, mais pas sous l'emprise d'un facteur perturbateur. On s'arrête là pour ce soir. Donc on n'a pas fait le refuge, mais on va pouvoir faire la dédicace.
Je me suis posé la question, je me suis demandé si j'étais arrivée en retard.
Non, parce qu'en fait, maintenant, je voudrais faire les quatre idées fondamentales avant le refuge. Parce que c'est ça qui nous invite à prendre refuge. Quand on... Mais on est parti sur le karma. Et puis, voilà. Donc on va faire la dédicace. Que le mérite accompli ici même ébranle le tréfonds du samsara et que les êtres sortent de leur torpeur pour reconnaître la nature de l'esprit. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci à toi.
Pour les séances par Zoom, on aura un lien.
Ouais, je vous envoie ça très rapidement.
Merci. Merci. Ça sera sur le site ou oui
J'envoie un mail à tout le monde et aussi sur le site.
D'accord, voilà, parce que les gens qui
me... Ouais.
D'accord.
Merci.